virgule.
Ça sent rudement bon.
Oui, c'est vrai.
Plus tard, c'est bon.
Vous enroulez. Oh, merci.
Point d'exclamation.
Vous faites erreur. Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
Il est bon dessiné.
Sur la bande dessinée.
X-Bulle, tout sur la planète bande dessinée. On se retrouve aujourd'hui, 23 décembre ou 30 décembre. Bah oui, c'est ça, on a décidé avec David qu'on allait être là pour ces deux journées, mais un peu la même chose pour ces deux journées. Vous avez probablement passé de bonnes fêtes de Noël si vous nous écoutez le 30, et vous allez probablement passer de belles fêtes de Noël et de fin d'année si vous nous écoutez le 23. Salut David.
Salut. Un réveillon s'annonce en tout cas.
Ah oui,
on voilà. On sait pas lequel, mais un réveillon s'annonce.
C'est ce qu'on s'est dit qu'on allait être là pour le réveillon. Vous nous mettez quelques huîtres de côté, hein? Voilà, on peut.
Ah oui,
on
oui
peut
avec
passer.
Plaisir.
Ouais. On peut passer. X-Bulle, c'est parti. On va vous donner une liste formidable de bandes dessinées, de beaux livres, de séries, de suites, des choses récentes, mais aussi des choses dont on a parlé tout au long de l'année et qui ont vraiment marqué nos lectures au coin du feu, parce qu'en ce moment, il faut se mettre au coin du feu pour lire, bien sûr.
Bon. T'es remonté combien de temps en arrière, toi, Crapule?
Oh, je sais pas, je crois que presque...
Presque toute l'année,
un an,
l'année
pratiquement
civile.
Pratiquement un an, ouais, pratiquement
ah oui. Ah,
un
moi,
an.
Je me suis cantonné, moi aussi, dernier mois.
Ah oui, ben non, moi je suis remonté aussi loin. Il y a un bouquin que j'ai beaucoup aimé qui est sorti il y a un an.
Tu pouvais pas passer à côté.
Au mois de novembre, voilà. Et je voulais en reparler là parce que pour les fêtes, c'est une très belle occasion de se le procurer. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Ça s'appelle Les Illuminés. Voilà, c'est paru aux éditions Delcourt.
Vous l'avez compris, c'est notre best-of, quoi.
Ah ben voilà, oui, voilà. Oui, oui. Tout ce qu'on a
en
adoré.
Deux mots, comment
En deux mots
Non, ça sera pas en deux mots.
X-Bulle, c'est parti. Passez un bon moment. Préparez à manger. Amusez-vous. Allez faire des cadeaux. Allez acheter ce que vous voulez. Faites une liste aussi éventuellement pour emprunter à la bibliothèque. Ça peut servir à ça aussi, X-Bulle. En tout cas, bande dessinée, musique, c'est le programme qui vous attend.
Manga, comique, bande dessinée, tout est là. Tous les lundis, c'est X-Bulle.
Quelques très beaux livres qui ont vraiment marqué cette année 2024 et même, je dirais, ouais, depuis la rentrée de cet été. Alors, tout d'abord, un très beau bouquin, un gros bouquin, c'est Zep qui nous propose des conversations avec Romain Brett. Et donc, ça s'appelle Dessiner le monde, c'était aux éditions Rue de Sèvres. Ça n'est pas un album de bande dessinée puisque ce sont les dessins de Zep, des extraits de ce qu'il fait, le graphisme qu'il a fait, par exemple, pour l'album de Jean-Jacques Goldman, mais également la naissance de Titeuf et puis ses albums adultes parus chez Rue de Sèvres. En tout cas, c'est un très bel ouvrage qui nous propose de découvrir Zep, le papa de Titeuf, sous un autre jour. L'album qui a vraiment été une claque absolue pour bon nombre de critiques de bande dessinée s'appelle « Deux filles nues ». C'est paru aux éditions Albin Michel et c'est l'histoire d'un tableau peint dans l'Allemagne juste avant l'arrivée au pouvoir du nazisme. Et ce tableau, on va suivre son histoire puisque le seul point de vue qu'on a dans toute la bande dessinée, c'est le point de vue du tableau, c'est-à-dire qu'on est accroché au mur et on voit passer, défiler les gens. C'est Luz qui est l'auteur de cette très très belle bande dessinée, donc qui vient de remporter tout un tas de prix. Et ça n'est pas fini, c'est vraiment un vrai coup de cœur. En plus, le dessin de Luz, qui est un dessin de presse, qui est un dessin un petit peu rugueux par moment, est vraiment travaillé dans cet album-là. Et les éditions Albin Michel nous proposent un vrai album coup de cœur pour cette fin d'année. Il y a également un autre album vraiment qui a été pour moi marquant dans la bande dessinée dans les derniers mois, ça s'appelle Les Illuminés, c'est aux éditions Delcourt, c'est Giffard qui nous le propose, et donc on va suivre l'aventure de Rimbaud, Verlaine et Germain Nouveau qui vont être dans un triptyque où tous les trois vont passer leur temps à se raconter des choses, vivre des choses ensemble. Et alors, ce qui est magique là-dedans, c'est que la lecture peut se faire horizontalement avec des couleurs ou aussi bien verticalement, c'est-à-dire qu'on lit les trois aventures en même temps, en parallèle. Il y a en plus de très belles pleines pages qui racontent une autre histoire, une histoire complémentaire à celle-ci. Si vous aimez la poésie, si vous aimez l'aventure, si vous aimez vivre de belles expériences de lecture et poétique, vous allez forcément aimer Les Illuminés, paru aux éditions Delcourt. Écoute s'il pleut. Alors là, c'est un album paru chez Daniel Maguin. Daniel Maguin qui nous propose donc un très bel album, tout en poésie, tout en douceur, sur le monde à la fois onirique, à la fois le monde des blessures intérieures. Tout ça dans un décor superbe. Le scénario est de Rodolphe. Le dessin est de Patrick Prugne. Et franchement, c'est un album qui va vous ravir parce qu'il est très émouvant, très touchant. Dès la couverture, vous allez être embarqué dans cet univers. Je termine cette série de coup de cœur par une biographie de Laurel et Hardy parue aux éditions Oxymore. Le dessin est assez simple, mais l'histoire racontée du point de vue de Laurel, puisque c'est lui qui nous raconte comment il a vécu ce duo, comment il a été un peu à l'origine de toute cette aventure et comment cette aventure a été jalonnée de grands succès, mais également de grandes, grandes difficultés. L'histoire, la vraie histoire de Laurel et Hardy, et j'insiste bien sur le « et Hardy », puisque ce duo y tenait énormément. C'est paru aux éditions Oxymore, je vous dis, dans un dessin un peu stylisé, un peu particulier, mais le fond de l'histoire, la façon dont c'est raconté, est absolument bouleversante, émouvante, et vous allez découvrir Stan Laurel et Oliver Hardy sous un autre jour, de leur début de carrière jusqu'à la disparition de Hardy. Je vous conseille vraiment cet album aux éditions Oxymore.
Malcolm McLaren, Sid Vicious et leurs copains ont les grelots qui scintillent. Ils nous interprètent tout de suite Jingle Bell. C'est bien sûr les Sex Pistols.
Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Out of fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. Fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Yeah, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Jingle bells.
A day or two ago, I thought I'd take a ride. As soon as Friday bright was sitting by my side. My horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. Until we hit a snowy bank and then we end up shot. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Well, what fun it is to ride in one horse open sleigh.
Ah, l'amour, l'amour, l'amour. D'ailleurs, je crois, David, que ça t'a inspiré, ça, dans ton choix de compilation. L'amour, le désir, la passion au cœur de la bande dessinée, non ?
J'ai croisé quelques lectures durant ce semestre, en effet, qui abordent ce thème-là de façon, chacune de façon très différente les unes des autres. À commencer par ce récit de Raphaël Geffray, qui est paru aux éditions Sarbacane, qui s'appelle « La gare ». La gare nous parle d'une certaine anarque qui a 45 ans, une femme élégante et mystérieuse, qui est directrice ou gérante, je ne sais pas, d'une gare tentaculaire, une gare monde. Elle tombe amoureuse pour la première fois. Que va-t-il se passer ? Le problème, c'est qu'elle tombe amoureuse d'un certain Adam, qui est bassiste d'un groupe qui se produisait dans une soirée où elle s'est trouvée. Ils se sont parlé, mais à peine 10 secondes, quoi. Et elle, paf, coup de foudre. mais lui ne se souvient à peine d'elle et s'apprête de toute façon à rentrer chez lui. Il habite à l'étranger donc, et pour rentrer chez lui, il doit transiter par la gare que gère Anna. Alors cette dernière, un petit peu en panique, va commettre l'irréparable. Elle demande à Saskia, la chef de la cybersécurité, de faire invalider le passeport d'Adam pour l'empêcher de quitter le territoire. Et ceci contre l'avis de Mireille, l'intendante, et au mépris de toute règle éthique. Dans l'illégalité, Adam, ignorant qu'il est victime d'une sorte de machination, n'a d'autre choix que de rester auprès de cette femme étrange et séduisante qui lui porte secours après l'avoir rendu illégal. C'est un peu bizarre.
Facile.
Le temps que sa situation, en tout cas, se régularise. Entre deux se noue une passion aussi folle qu'elle n'est pas censée durer. Et on comprend alors qu'Anna s'enferme dans une dépendance affective malsaine et qui ne parvient jamais donc à la contenter. Mais pataugeant dans les émotions qu'elle ne sait pas gérer, Anna perd peu à peu pied et délaisse les foules d'usagers dont elle a la charge d'assurer la bonne circulation. Des usagers qui circulent dans les couloirs interminables de cette gare comme le sang d'Anna coule dans ses veines, graphiquement et métaphoriquement en tout cas. Et cela est d'autant moins fluide qu'un mouvement de grève d'une ampleur sans précédent éclate, comme les arythmies cardiaques provoquées par un trop-plein d'émotions. L'amour grandissant, c'est toute une immense mécanique bien huilée, celle de la gare qui se grippe. Ah, la gare est une chronique, voire une critique, aussi lucide qu'aiguisée du libéralisme, du plus profond du sous-sol de cette gare aux plus hauts étages. C'est le miroir parfait de ce qui structure l'essentiel de la société, les rapports de domination.
Autre chose, toujours dans le domaine de l'amour et de la passion ?
Oui, Schubeck Lubeck. Et oui.
Très bel album, ça.
Oui. Sous-titré...
Pas facile graphiquement.
Ah, moi, je... Si. Ça va. Non, j'ai pas été trop rebuté, moi.
Il a un abord quand même un peu particulier comme bande dessinée.
Ouais.
Mélange de style.
Il y a quelques... J'ai pas souvenir, c'est ça que tu m'inquiètes. Je l'ai pas relu pour présenter cette chronique aujourd'hui, mais bon. Vos désirs sont des ordres. C'est le thème, le sous-titre de cet album, Schubeck Lubeck. Nous sommes dans une ville du Caire, une Caire contemporaine. Les vœux, de façon Jean fait un vœu, sont devenus une marchandise comme les autres et font partie du quotidien des habitants. Trois chapitres vont séquencer ce récit, trois chapitres qui s'intéressent à trois personnages que sont Aziza, Nour et Chorkri. Voilà, répartis en différentes catégories, ces vœux, je reviens aux vœux, leurs usages sont réglementés et les citoyens apprennent parfois à leurs dépens qu'il faut les manipuler avec précaution. Donc trois vœux vont changer la vie de ces trois personnages que sont Aziza, Nour et Chokri. Ils ont tous un désir profond, ces trois personnages, et ils vont chercher à utiliser ces vœux. Mais pour formuler les vœux, chacun doit se demander ce qu'il désire vraiment et plonger au plus profond de son être. Ils s'apercevront que parfois, les désirs font des ordres.
Oula !
Eh oui. À découvrir donc ce très bel album vraiment superbe, c'est 527 pages pour 35€, c'est signé de Dina Mohamed, une autrice égyptienne, et c'est sorti aux éditions Stankis. Je me demande si cet album-là d'ailleurs n'est pas nominé à Angoulême.
Si, il est dans la sélection officielle
d'Angoulême. Ouais, il me semble bien.
Autre passion.
Autre passion, celle de la nourriture, je ne sais pas si tu te rappelles, le dernier
Ruben.
Festin de Rubin, peu importe. Un récit signé de l'auteur du scénariste Ram 5. Au dessin, c'est le dessinateur portugais Felipe Andrade qui assure donc ce dernier festin de Rubin aux éditions Urban Comics. Une superbe fable au relent de philosophie, de spiritualité et d'effluves épicées que nous offre à découvrir le duo d'auteurs de Toutes les morts de Laila Star. Ça, c'était ensemble qu'ils ont sorti cet album il y a 2 ans, je crois. Donc Ram 5 et Felipe Andrade. Véritable hommage à la gastronomie indienne, ce récit, en plus de nous questionner sur le sens à donner à l'amour de son prochain, va immanquablement venir chatouiller nos 5 sens. S'appuyant sur la figure de Bakusara, un Rakshasa, un démon si vous préférez, de la mythologie hindoue, ce récit nous permet d'atteindre une dimension universelle par le truchement de la nourriture, de l'alimentation, et donc nécessairement là par la subtilité de la cuisine indienne. Rubin Bakhsh, c'est le personnage principal de cette bande dessinée, a l'idée de tourner un documentaire audiovisuel dont il partagerait le fil rouge avec quelques recettes emblématiques de la cuisine indienne soigneusement choisies. Il fait appel pour cela à Mohan, un jeune réalisateur documentariste. Une rencontre au début qui se fait pas si facilement. Mohan s'était juré de ne plus jamais tourner aucune image, pour des raisons que vous découvrirez dans l'album. Voilà, des rencontres avec des hommes et des femmes qu'ils vont faire ensemble et que Rubin estime être, chacun à leur manière, des garants d'une tradition oubliée. On n'a pas là à faire un simple dépliant touristique sur les routes de la cuisine indienne, et le voyage ne serait pas aussi palpitant si Ram 5 n'avait pas mis sur les talons de Rubin et donc de Mohan un duo de tueurs à gages, de chasseurs de primes, un certain Dilshan et Dilkush. Deux individus bien décidés à rattraper Rubin, ou plutôt à rattraper Bakasura le démon, pour lui faire payer ses crimes passés. Les lignes bougent au fil de l'aventure et nous sommes les témoins de l'évolution du rapport humain entre les deux personnages centraux de ce récit. Je ne vous en dis pas plus, on a d'une part très envie de passer à table et de manger de la cuisine indienne, et en même temps c'est un superbe récit. Donc chez Urban, c'est 152 pages pour 21 €. Très très beau cadeau si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui aime un tant soit peu être au fourneau, cuisiner ou quoi que ce soit, hein, vous vous en doutez. Vous aimez les épices aussi. Dernier récit, parlant d'amour.
Encore.
L'aventurier, c'est un scénario de Alessandro Tota sur un dessin d'Andrea Settimo de Transalpin, librement inspiré du texte inachevé d'Arthur Schlinzer. Voilà. C'est aux éditions Glénat dans la collection Très étrange qu'est sorti cet album. Nous sommes en Italie en 1520. L'histoire débute dans la ville de Ravenne. Et on fait la connaissance d'Anselmo Ringardi, un jeune homme dans la fleur de l'âge, qui est écrasé par le poids des obligations familiales. C'est avec l'arrivée de la peste dans cette ville de Ravenne que Anselmo va pouvoir se sentir libéré, car malheureusement la peste emporta nombre de ses amis et ses deux parents. Plus rien ne retient Anselmo à Ravenne, il selle donc son cheval au plus vite, il prend sa lame et part à l'aventure. Dans une clairière enchanteresse, au milieu des bois, il découvre les portes du palais du mage Géronte. Un vieux mage érudit qui s'est forgé la réputation, jamais démentie, de pouvoir prédire avec une grande exactitude la date et l'heure de la mort de toute personne dont il sonderait le regard. Mais c'est surtout le regard de la fille de Géronte, Lucrezia, que Anselmo croise à ce moment-là. Cupidon décoche sa flèche et les deux jeunes gens s'éprennent l'un de l'autre. Géronte plongera alors son regard dans celui d'Anselmo, qui demande déjà la main de Lucrezia. Le verdict tombe, il ne lui reste plus qu'une année à vivre sur cette terre, pas un jour de plus. Mais est-ce là une honnête prédiction de Géronte ou une réponse cruelle pour éprouver la valeur du prétendant à la main de sa fille ? Un destin hors du commun, fait de grandeur, empli de guerre, d'amour impossible, de désespoir, de courage, de déclin, et que la peste viendra à nouveau chambouler, un destin furtif pour Anselmo. Un très beau récit initiatique, tragique et poétique, onirique aussi par moments. Graphiquement, Andrea Settimo nous propose une ligne épurée qui se focalise sur l'action et les personnages. Les décors sont assez souvent réduits à leur plus simple expression, avec beaucoup de cases laissées vierges de tout arrière-plan. La palette de couleurs est plutôt sobre et douce, avec des teintes pastel. Ça s'appelle L'Aventurier, c'est sorti chez Glénat, 184 pages en couleur pour le prix de 25 €. Voilà, j'en ai fini avec l'amour, les passions, le désir.
K, à terre !
On va pas y me sauter !
C'est pas vrai, je rêve.
Plus tard, c'est bon.
Allez vous faire foutre avec votre logique.
Point d'exclamation.
La bande dessinée se veut également utile. Utile pour découvrir des domaines ou en tout cas voir sous un autre angle, peut-être un angle un petit peu plus ludique, les difficultés de la vie, de l'existence. Les éditions, les arènes BD nous proposent tout un tas de manuels, de documents qui sont à la fois très documentés d'un point de vue scientifique, mais également très faciles d'accès grâce aux dessins et aux mises en situation. J'en ai deux là, sous les yeux, dont je voudrais vous parler. Le manuel de survie face aux harceleurs et autres brutes de la cour d'école. C'est Emmanuel Piquet, Camille Blandin et Jean-François Marmion qui se sont penchés sur le sujet. Cette bande dessinée qui dédramatise et donne des outils concrets pour casser le cercle vicieux du harcèlement. Ça peut être utile aux parents, ça peut être utile aux enfants. C'est un point de vue, c'est une proposition, hein, évidemment. Il ne s'agit en aucun cas de dire que c'est le remède miracle à toutes les situations de harcèlement. Mais quand on est un petit peu paumé, quand on ne sait pas trop vers qui se tourner, vers quoi faire, eh bien ce genre de manuel, ce genre de bande dessinée peut vous permettre d'y voir un peu plus clair. C'est dans la collection BD Psy des éditions Les Arènes BD. Toujours dans cette collection BD Psy, il y a une très très belle bande dessinée qui s'appelle Adieu traumatisme et autres blessures invisibles. Une BD thérapeutique pour soigner ces blessures invisibles. On va y découvrir sous la plume de François Loubov, de Jean-François Marmion et de Valentine Safatli, on va y découvrir comment les psychotraumatismes, les événements qui nous arrivent peuvent impacter de façon durable notre existence. À partir d'une bande de copains qui ont tous leur histoire, leur vécu, et puis à partir d'un accident dramatique qui arrive à un de ses copains et qui se retrouve en fauteuil roulant, paralysé, on va suivre toute la petite bande avec les multiples facettes. Voilà, on est sur un récit qui se veut assez généraliste, donc forcément, on voit que les personnages ont tous un bout d'histoire qui est en lien avec ce récit « Adieu traumatisme et autres blessures invisibles ». Cet album est vraiment très utile et puis à la fin de l'album, il y a également quelque chose qui vous permet de proposer des solutions, des pistes de solutions. Ça explique les principes de soins qui peuvent être faits autour de l'EMDR et autres outils thérapeutiques. La bande dessinée est toujours utile pour comprendre les situations et pour lutter contre. Les femmes ne meurent pas par hasard, c'est Anne Bouillon, Lison Fernet et Charlotte Rotman qui proposent aux éditions Steinkiss ce très beau récit de témoignage d'une avocate. Anne Bouillon, elle est avocate à Nantes, elle est féministe et depuis MeToo, son cabinet ne désemplit pas. Chaque jour, des victimes s'adressent à elle, chaque jour, elle se bat pour que la justice les entende. Elle ne défend plus les hommes, elle ne supporte plus leur violence, elle veut raconter l'histoire des femmes qui sont victimes tous les jours, au quotidien, de drames. On va y suivre au fil de pages assez émouvantes, assez bouleversantes, quelquefois difficiles, les récits de cette avocate qui propose là de découvrir comment on peut faire valoir les droits des femmes dans cette société qui a bien évolué. Ça s'appelle « Les femmes ne meurent pas par hasard », c'est aux éditions Steinkiss, et là aussi c'est un album d'utilité publique. Allez, quelque chose d'un petit peu plus léger, avec « Il était une fois la gastronomie ». Là, c'est un bouquin que nous proposent les éditions Delcourt, un livre fabuleux qui nous permet de découvrir comment est née la gastronomie à la française, comment les rois, comment les chefs cuisiniers, comment ils mettaient tout leur cœur dans le fait d'établir de très beaux menus, de très beaux repas. Et « Il était une fois la gastronomie », un gros pavé. Alors, on est sur une histoire, on a des copains qui viennent rencontrer un chef étoilé qui va passer la main à ses enfants. Et donc les enfants ont un food truck dans lequel s'invitent tous les grands noms de la cuisine à travers le temps. Voilà, c'est un espèce de food truck voyageur. Et puis lui, il revisite également comment il était passionné par la cuisine, quelles ont été les personnes qui l'ont inspiré, comment il y a eu des femmes admirables en cuisine, des femmes souvent à l'origine de grandes dynasties de cuisiniers. Mais au départ, c'était des femmes qui faisaient une cuisine généreuse, simple, mais goûteuse. Il était une fois la cuisine, c'est aux éditions Delcourt pour tous ceux qui sont passionnés par ce qu'on met dans notre bouche et la façon dont ça a été préparé, vous allez adorer. Et puis je vais terminer avec un album de Coco. Vous savez, Coco, cette journaliste dessinatrice qui travaille pour Charlie Hebdo entre autres, eh bien elle vient de publier aux éditions Les Échappées Pauvre bête, voyage au cœur de la condition animale. Si Coco n'avait pas été dessinatrice, si elle n'avait pas mis sur le papier les dessins qu'elle sait faire, eh bien elle aurait été naturaliste. C'est par ces mots que la dessinatrice nous invite à la suivre dans cette série de reportages dessinés qu'elle a réalisé au fil d'une enquête sur la condition animale. Engagée au plus près de son sujet, elle utilise toute sa palette au service des animaux et se fait dans cet ouvrage à la fois naturaliste, journaliste et dessinatrice. Elle va nous raconter, les exportations, les importations frauduleuses d'animaux qui passent dans la douane des fois dans le soutien-gorge des personnes, dans le caleçon. Enfin bon, c'est terrible, mais en même temps, c'est très proche de la réalité. Coco nous signe ici un très bel album de 136 pages en couleur. Donc je vous le dis, où elle mélange à la fois le reportage, la narration, toujours avec son style si particulier, son style graphique si particulier. Pauvre bête, c'est le titre de cet album qui nous propose un voyage au cœur de la condition animal. En ces périodes de fête, c'est également peut-être une bonne idée pour se remémorer comment nos compagnons à quatre pattes ou à plumes ou à poils vivent leur situation d'animaux domestiques. 136 pages, c'est aux éditions Les Échappées.
Alors Crapule, quand tu m'as annoncé, faut bien que vous compreniez, chers auditeurs, il est responsable de la programmation musicale cette semaine. Et quand il m'a annoncé qu'il avait prévu de passer un morceau que vous allez entendre maintenant de Guitar Wolf, ça m'a troué, ça m'a scotché.
Ah bah ouais.
Et Guitar Wolf, c'est vraiment le punk rocker, mais qui a un peu la gueule de Gene Vincent, donc il s'habillait toujours en noir, en cuir, avec des lunettes de soleil noir, qui nous vient du pays du soleil levant. Guitar Wolf, je sais pas qu'est-ce qu'il nous interprète, t'as choisi
Love Jet.
Eh ben dis donc, si j'avais pensé écouter ça et entendre ça un jour dans X-Bull, vous êtes gâtés.
Sur Pulsar, c'est X-Bull, un X-Bull un peu particulier puisqu'on y parle de bande dessinée, de belles lectures surtout, mais peut-être même d'idées cadeaux. Oui, vous pouvez, si vous êtes fan d'histoire par exemple, écouter les chroniques de David.
Ouais, enfin, c'est pas peut-être même d'idées cadeaux, c'est des idées, ce sont des idées cadeaux,
oui,
c'est sûr.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est notre best-of, alors pensez donc, oui, l'histoire, et l'histoire comme contexte ou base solide de récits de fiction. J'ai lu ce dernier semestre deux bandes dessinées splendides qui usent de ce procédé, à commencer par Gospel de Will Morris. Gospel de Will Morris donc, qui nous plonge dans une Angleterre en proie à de grands bouleversements. Pensez donc, suite en 1527 au refus du pape Clément VII à annuler le mariage d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon, la réforme, le schisme anglican est annoncé. Patatras. S'ensuit une période vraiment trouble qui débuta véritablement en 1530 où les catholiques pratiquants sont de plus en plus persécutés, les lieux de culte, les sanctuaires pillés, les icônes catholiques reniées, discréditées et durant laquelle le protestantisme va s'imposer faisant par la même entrer le catholicisme dans la clandestinité. C'est ça la base solide de ce récit de Gospel. Gospel, ça se passe dans la ville de Rumstead, on est en 1538, c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre, et Will Morris décide donc de camper son récit ici, dans cette petite ville de Rumstead. Une histoire médiévale, fortement marquée donc par un contexte religieux et politique très perturbé, je le disais, et dans lequel nous allons suivre l'aventure, la quête de deux jeunes gens très attachants, l'intrépide et courageuse Mathilde et son meilleur ami Pete le lettré, un conteur hors du commun. Âgée d'une vingtaine d'années, Mathilde est une jeune femme désireuse de se forger une réputation. Elle a soif d'aventure et cherche à devenir une grande héroïne. Pour ce faire, elle multiplie les actions en tout genre que son ami, presque son frère, Pete, couchera sur le papier en enjolivant la vérité, en grossissant le trait pour en faire de véritables faits d'armes. Des histoires, celles de Mathilde ou d'autres, qu'il compte et raconte à merveille dans les auberges du coin, gagnant quelques deniers au chapeau. Seulement, dans la petite ville de Rumstead, les occasions de s'illustrer par des actes de bravoure, guidés par la foi du Christ, sont très rares. Leur affaire, en tout cas, à tous les deux, semble un peu plus qu'éculée, lorsqu'un beau jour, une effervescence gagne la ville. L'église de la Butte Ornick est en flammes, et les premiers témoins évoquent déjà la présence sur place de démons. L'occasion est trop bonne pour Mathilde, qui, accourant sur place, constate qu'au pied du clocher, soufflé par une explosion, le diable en personne se tient là, revendiquant la propriété du lieu. Et l'histoire ancienne de la ville raconte que seul l'habile forgeron Rumpus, autant jadis, parvint avec son marteau à mettre le diable en déroute. Ce sera donc là la quête que le père Nicolas va confier à Mathilde et Pete, leur grande quête, retrouver la relique disparue, le marteau de Saint-Rumpus, et aller terrasser le diable chassé de la butte d'Olnick. Ah ! Will Morris nous épargne l'apport d'éléments fantastiques pour dénouer l'intrigue de son récit, telle une grossière pirouette trop souvent utilisée. Bien au contraire, il se sert d'un élément surnaturel et fantastique, l'apparition du diable, pour véritablement lancer l'intrigue principale qu'il parviendra à résoudre en raccrochant son récit au contexte politico-religieux bien réel de l'Angleterre du XVIe siècle. Côté graphisme, c'est là aussi un excellent travail que nous propose Will Morris, avec des ancrages justes et précis, une colorisation soutenue, voire chatoyante, des mises en page très dynamiques également, et des cadrages souvent osés et pertinents. Bref, du très bel ouvrage qui offre une lecture vraiment plaisante. Une superbe bande dessinée vibrante et passionnante que ce gospel chez Urban Comics, 160 pages en couleur, très belle page, pour le prix de 20 euros.
Allez, autre album autour de l'histoire.
Exactement, et la même histoire, figure-toi.
Le diable ?
Non, pas le diable, non, le schisme anglican plutôt, les histoires de protestants et de catholiques et de protestants au XVIe siècle. Un récit d'aventure anthropologique, philosophique et poétique au cœur de la forêt brésilienne, en terre lointaine désignée par les Antipodes. C'est le titre de l'album. Antipode. On est au XVIe siècle donc, avec en toile de fond donc les guerres de religion qui sévissent sur le vieux continent où l'évidence admise du catholicisme est battue en brèche par le protestantisme. Ici, au cœur de la jungle amazonienne, les cultures indiennes se moquent bien du dieu chrétien. On est en 1957, donc vous voyez, très proche de l'histoire de Gospel, et on fait la connaissance de Nicolas Durand, un Français évangélisateur, colonisateur. Il vit depuis quelque temps maintenant parmi une tribu de Tupinambas. Il vit nu comme eux, quoi. Il a adopté leur style de vie. Ouais. Il a été épargné quand il a été fait prisonnier. Et normalement, il aurait dû être mangé au bout d'un an.
Ah, ouais, ça c'est...
Il garde les prisonniers pendant un an. Au bout d'un an, il les passe à la casserole.
Ah ouais, ils sont faisandés, ils sont bien mûrs, quoi.
Sauf que lui, ils l'ont gardé en vie parce qu'il a le don de chanter à merveille. Et vous allez voir que ça va lui sauver la mise à plusieurs reprises. On fait également la connaissance d'un certain Jean Alamin. C'est un parpaillot, un papillon, donc un protestant genevois. Mais néanmoins, il est ami de Nicolas et il passe le voir au village pour lui transmettre une convocation de la part du gouverneur Villegagnon. Gouverneur tyrannique Villegagnon qui a installé une colonie là-bas, sur ordre de je ne sais plus quel roi à l'époque, hein, François quelque chose. Le mariage donc de Nicolas hors de l'église déplaît fortement à Villegagnon, fervent chrétien. Deux types de violences vont s'opposer dans ce récit. D'un côté, nous avons celle du colonisateur Villegagnon, militaire et autoritaire. De l'autre, celle des autochtones cannibales qui absorbent la chair des ennemis vaincus et de surcroît vivent nus. Rendez-vous compte. Le parti pris de David B., l'auteur donc de ce récit, le scénariste, est celui d'éviter de montrer cette confrontation de culture du point de vue de l'occidental, du colonisateur, mais bien au contraire, en débutant son récit directement au cœur du village Tupinambas, de permettre au lecteur d'adopter celui des Indiens armés de toutes leurs croyances primitives. Il invite, primitive entre guillemets, hein, il invite le lecteur à se questionner sur la notion de croyance et aussi sur celle de barbarisme. Antipode est assurément un récit passionnant et instructif qui pousse à la réflexion et qui, sur certaines scènes, un rien cocasse ne manquera pas de vous amuser, sourire en coin. J'ai beaucoup aimé ça.
Ah oui.
Voilà, c'est signé donc de David B. pour le scénario. Le dessin est quant à lui assuré par un certain Éric Lambé. C'est aux éditions Casterman que sont proposées ces 112 très belles pages en couleur pour le prix de 22 euros.
Une émission d'X-Bull pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Et forcément, David, une émission sans parler de super-héros qui met son slip sur son collant, ça ne peut pas exister. T'en as un quand même sous la main.
Oui, j'en ai lu un ces 6 derniers mois. Un en particulier qui m'a énormément plu. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais je vous laisserai vraiment, si vous êtes curieux, de découvrir, trouver l'album, le découvrir et tout. Il est signé de Tom King pour le scénario et de Georgie Fornes au dessin. Le coloriste, je peux le signaler aussi parce qu'on le retrouve souvent derrière ses pinceaux, c'est Dave Stewart. Et cet album s'appelle Danger Street. C'est sorti chez Urban Comics, bien sûr, et c'est 376 pages pour 36 euros. Voilà. Il y a quelques super-héros. Alors, c'est marrant, c'est que c'est des super-héros héros de seconde zone remis au goût du jour et autour desquels Tom King brode un scénario mais vraiment hyper puissant, hyper précis, hyper juste. Voilà, je peux vous donner les noms, mais ça vous dira rien. Starman, Metamorpho ou Warlord, ça vous dit rien.
Ça me dit rien du tout.
Moi non plus, je les connaissais pas avant.
Ah ouais.
Mais voilà, on s'attarde pas sur la valeur de ces super héros ou leurs pouvoirs et tout ça. C'est pas là la question. Ça se situe ailleurs parce que le scénario, on est vraiment dans du polar, qui intègre des super héros. J'ai lu quelque part une chronique qui disait que Danger Street c'était un récit de super héros pour ceux qui n'aiment pas les super héros.
D'accord.
C'est pas complètement faux. À découvrir donc chez Urban Comics.
Un autre super-héros, mais lui de la musique, c'est Jim Morrison, qui est enterré au Père Lachaise. Et si je vous parle du Père Lachaise, c'est parce qu'un très bel album collectif vient de sortir aux éditions Delcourt. Un album scénarisé, oui je vais y arriver, un album scénarisé par Sébastien Floch, mais mis en image par plusieurs artistes dessinateurs, Florent Brossard, Nancy Pena, Teddy Christiansen, Abdel de Bruxelles, Edith. Et donc, ça s'appelle Le Père Lachaise, tout simplement. Et ça va nous raconter l'histoire de la vie et surtout de la mort et la tombe de ces personnalités au Père Lachaise. Donc, on va y retrouver évidemment le premier dont il était obligatoire de faire l'histoire. C'est le père François d'Aix de Lachaise qui a donné son nom au cimetière du Père Lachaise. Jim Morrison, je vous le disais, donc on brosse la vie, les étapes importantes de la vie de chaque personnage rapidement, et puis après on s'attache un peu plus à l'endroit où ils sont enterrés dans le cimetière, la forme de la tombe, où est-ce qu'elle est située, tout ça avec un petit guide bien particulier puisque c'est un chat noir qui nous accompagne au fil de ces pages, qui prend des aspects et des personnalités légèrement différentes en fonction des dessinateurs. Donc Jim Morrison, vous verrez à quel point cette tombe a été saccagée, ravagée, à quel point le buste a été pillé, il a même été enlevé. On a même fait croire pendant un temps que le corps de Jim Morrison avait été rapatrié. Il n'en est rien. Il est toujours enterré à Paris. Il est toujours au Père Lachaise. Par contre, il y a un petit peu moins de monde qui vient le voir. On va suivre également l'histoire de Sarah Bernard et comment elle a été enterrée dans le caveau familial avec son fils unique. Comment il faut se pencher pour voir la tombe, parce que c'est une espèce de petit mausolée avec un toit et puis des arcades. On va voir effectivement qu'elle a organisé elle-même ses obsèques et qu'elle n'a jamais imaginé de se faire enterrer à Belle-Île comme on l'a pensé à la Pointe des Poulains, mais qu'elle souhaitait être enterrée au Père Lachaise dans le caveau familial. On y retrouve également l'histoire de Jeanne Avril, star du French Cancan à l'époque où les danseuses dansaient au Moulin Rouge, à Allan Kardec également, et dans ces pages-là, puisqu'il est enterré au Père Lachaise. Allan Kardec, c'est le père du spiritisme. On va également parler d'Alfred de Musset, Honoré de Balzac, Frédéric Chopin, Antoine Parmentier, Oscar Wilde, voilà, vous l'avez compris, tout un tas de personnalités enterrées au Père Lachaise. Ici, en quelques pages, on a des éléments de leur vie et surtout les éléments autour de la sépulture qu'ils ont dans ce célèbre cimetière parisien. Père Lachaise aux éditions Delcourt, 162 pages pour 23,50€.
Merry Christmas, I don't want you back tonight with. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Yeah. Where is Santa and who is sleigh? And tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas, Merry Christmas.
Les quatre punk rockers des Glingos de New York, les Ramones, à l'instant, nous ont interprété le morceau Merry Christmas. Vous écoutez X-Bull, c'est la dernière de l'année.
Eh oui.
Pulsar 95.9.
Ah ouais.
As-tu crapule ? Avez-vous, auditeur, envie de vous immerger dans des univers très, très intrigants ?
Ah bah oui, l'intrigue, ça fait quand même partie de l'univers de la bande dessinée.
Très mystérieux et intrigant, avec notamment les navigateurs. Alors on va pas s'immerger, on va flotter à la surface d'un univers normal avec les navigateurs. Et ce titre, Les Navigateurs, signé de Serge Lehmann pour le scénario et de Stéphane de Canevach pour le dessin, est paru il y a peu aux éditions Delcourt. C'est 208 pages en noir et blanc, splendide. L'histoire de trois copains d'enfance, Arthur, Max et Sébastien, originaires de la ville de Clamart. Un flashback très rapidement va nous permettre de comprendre que quand ils étaient jeunes, à l'âge adolescent, 17 ans, 18 ans, ils virent arriver dans leur ville de Clamart la pétillante et séduisante Neige Agopian, une jeune femme dont ils étaient tous un petit peu amoureux, enfin bon bref. Et voilà, sauf qu'un an plus tard, Neige, au moment de repartir ou de partir en voyage linguistique en Angleterre, n'est jamais revenue, elle a disparu. On fait un petit bond de 20 ans, le temps présent du récit, on retrouve les trois copains et la nouvelle est tombée, Neige est de retour. Ils vont faire une soirée ensemble pour fêter leur retrouvaille. Neige s'est réinstallée dans la maison de ses parents qu'elle avait toujours préservée à Clamart, ses parents n'étant plus. Et là, elle a découvert dans la chambre de ses parents, sous le papier peint jauni, le début d'une fresque mystérieuse. Une drôle de fresque qui est estimée à la fin du 19e siècle et que les copains vont réussir à trouver l'auteur, un certain Ferdinand Krebs, obscur disciple d'Odilon Redon, mort en 1910 et fondateur de la non moins oubliée École de la Bièvre. Seulement voilà, Neige, dans des conditions très très étranges et mystérieuses, pensez donc qu'elle va intégrer la fresque, je ne vous en dis pas plus, en tout cas va disparaître à nouveau et ça va créer donc un mystère de plus et une énigme que les trois copains vont essayer de démêler. Empruntant la piste de cette étrange fresque, leur enquête va les mener sur les traces d'une certaine Jeanne Latour, la compagne de Ferdinand Krebs à l'époque et autrice d'un étrange recueil intitulé « Les contes de la vieille mère ». Ce nouveau récit de Serge Lehmann, je rappelle, c'est l'homme gribouillé, masqué, Vega, l'œil de la nuit, avec Jess notamment, Saint-Elme et tout. Et donc ce nouveau récit de Serge Lehmann et de Stéphane de Canevach est un merveilleux jeu de pistes, sombre à la limite de l'horrifique, qui sautille de part et d'autre de la frontière entre le réalisme et le fantastique. Les Navigateurs, donc à découvrir chez Delcourt, pour 26,50€.
Autre univers autour des contes.
Oui, j'évoquais le personnage, l'auteur Jess, qui est seul aux commandes du projet Les Contes de la Pieuvre, et nommé pour la deuxième fois avec le tome dont je vais vous parler cette année à la sélection officielle d'Angoulême. Voilà. Et le tome en question, c'est le quatrième tome des Contes de la Pieuvre, Fanny la Renoueuse. Après Gustave Babel, le porte-flingue polyglotte, Émile Farge, le trouveur, et Célestin, le garçon de café au talent de discerneur, voici donc dans le rôle-titre de ce quatrième opus, Fanny la Renoueuse. Fanny Dumas, de son patronyme complet, la Renoueuse, est une empathique bienveillante. Pardon.
Oui, empathique.
Oui. Elle pénètre l'esprit des gens, communique intérieurement avec eux et les aide à surmonter leurs difficultés psychiques. Je vous laisserai découvrir par vous-même les nombreuses intrigues qui émaillent ce récit et la subtilité de leur résolution. Et même si cet opus m'a un rien moins enthousiasmé que les précédents.
Tu l'avais dit ça.
Ouais. Ouais, peut-être parce que beaucoup de scènes se jouent à l'intérieur de la psyché des personnages. Il n'en reste pas moins que Jess nous régale à nouveau, tant son univers est puissant, dense, tant les personnages sont incroyablement bien définis, sculptés d'une justesse psychologique admirable, avec toujours des dialogues et des récitatifs de qualité, riches d'un choix de vocabulaire parfaitement idoine à l'époque dans laquelle s'inscrit la série et au milieu. On est dans les milieux de la mafia parisienne, donc ça parle du genre, enfin voilà, c'est de l'argot parisien du début du 19e. Et il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, il se passe plein de choses. Fanny Larenoueuse, Tomcat, donc des Contes de la Pieuvre, signé de l'auteur Jess. C'est 17,95€ pour 208 pages, très belles pages en couleur. D'autres suites?
Ah oui, des suites. Alors là, une salve de suites de séries qui sont ou terminées, qui se sont terminées en 2024 ou qui sont juste terminées. Un putain de salopard, c'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est le récit que nous propose...
Comment s'appelle-t-il?
Ah ben oui, voilà, c'est ça, j'ai perdu son nom.
Ah ben c'est ballot.
Bon. Ah ben oui, ça c'est pas très malin quand même, ça va me revenir. C'est une histoire qui se passe dans la jungle et qui donc nous permet de suivre une aventure. Alors, comme je le disais un peu c'est très confus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'histoires qui se mélangent les unes avec les autres. On a un garçon qui cherche à savoir qui sont ses parents, ce qu'ils sont devenus. On a des orpailleurs, on a des infirmières qui arrivent pour faire une mission. Et c'est Régis Loisel, le nom que je cherchais voilà. Tout à l'heure. C'est le nouveau récit de Régis Loisel qui nous propose donc ce tome 4, la fin de l'histoire, un putain de salopard. Donc si vous aimez le voyage, le dépaysement, l'aventure, Les mecs tout droit sortis du ciné d'Audiard, il y a des personnages qui sont comme ça, vous allez adorer ce tome 4. Autre personnage pas très marrant non plus, c'est le tueur. C'est aux éditions Casterman que le tueur a vécu un nouveau cycle là qui se termine avec ce tome 6. Un tome 6 où le tueur devient un petit peu plus humain, puisque lui qui d'habitude est quelqu'un qui exécute des contrats...
Froidement,
qui,
très froidement.
Ah oui, c'est ça, c'est son métier, c'est ce qu'il fait. Et bien là, un peu d'humanité vient auprès de lui quand il épargne une enfant dans un contrat et cet enfant va forcément bouleverser le reste de sa vie. Le tueur, c'est aux éditions Casterman, le nouveau cycle se termine avec ce tome 6. On va, évidemment, moi je ne peux pas passer Noël sans vous parler de la série que j'adore depuis le tome 1.
Mais quelle
est-elle ?
C'est
la série Seul.
Ah oui.
La série Seul qui a débuté aux éditions Dupuis et qui vient d'être reprise par les éditions Rue de Sèvres. Le tome 15 est dans les bacs. Il est tout aussi réussi que le tome 14. Ce nouveau cycle est fabuleux. Les personnages de Seul ont pris beaucoup d'ampleur, beaucoup d'épaisseur. Cette histoire qui au départ débute par des gamins qui sont paumés dans une ville où il n'y a personne. Et puis finalement, on s'aperçoit qu'ils sont dans les limbes, dans un espèce d'univers entre la vie et la mort et qu'il faut qu'ils commettent des choses, qu'ils fassent des choses pour pouvoir passer dans la mort complète. C'est vraiment un récit fabuleux avec un style graphique très facile d'accès puisqu'on est sur des personnages avec un dessin très enfantin. Allez, on continue dans un autre registre chez Adolphe. Là, le tome 4 est paru cette année chez Adolphe. Ça nous permet de voir un peu ce qui s'est passé dans la tête des Allemands qui ont vécu la montée du nazisme comme quelque chose peut-être de banal, qui n'avaient pas conscience de tout ce qu'il y avait derrière la folie d'Adolf Hitler. Ça peut inspirer certaines personnes ici, je pense. Et ça nous raconte comment un bistrot...
Ne regarde pas comme ça.
Non, je ne parle pas de toi, évidemment. Mais chez Adolphe, ça nous raconte l'histoire d'un bistrot. Et le tome 4 clôt cette histoire qui se termine dramatiquement et qui va voir le nom du bistrot se changer. Ça, ils vont décrocher l'enseigne chez Adolphe pour le renommer autour de l'amitié. Voilà, le tome 4 est paru, c'est aux éditions Delcourt chez Adolphe, une très belle série. Et puis je vais terminer par un diptyque paru aux éditions Dupuis qui s'appelle American Parano, dans un style graphique assez original, un peu 60s, un petit peu stylisé façon... Il y a des inspirations du comics et on va y suivre une enquête policière dans ces deux tomes autour du diable, autour d'assassinats, de crimes, avec une enquêtrice assez jeune qui débute dans le métier avec des grands yeux bleus et qui va... vivre une aventure assez particulière. Vous découvrirez tout ça à la fin du tome 2, pourquoi cette aventure est si particulière pour elle. Mais American Parano, ces deux tomes parus aux éditions Dupuis, est une très belle surprise en matière de polar.
Me ramener douceur. Le mal est entré et je sais qu'il détruit, qu'il pourrait me faire crever. Que reste-t-il ici? Je ne veux pas.
Dans cette émission un peu spéciale Noël, en tout cas spéciale fête de fin d'année et tout, les fêtes de fin d'année c'est aussi la fête des enfants, pour le plaisir des tout petits ou des plus petits, et je crois, Crapule, que tu as quelques bandes dessinées qui leur sont destinées à nous présenter.
Et pour les enfants qui ne souffrent pas d'arachnophobie, Émilie Cado et le secret des araignées vient de paraître aux éditions La Gouttière. C'est Antoine Daudet qui nous propose cette aventure, une aventure, un one-shot, hein, une histoire complète qui nous est racontée. Donc on va suivre les aventures d'Émilie, cette petite fille qui à la fois est intrépide, a envie de découvrir le monde, mais en même temps un petit peu peur des araignées. Donc Émilie, elle est chez elle avec ses parents. On est dans un univers-temps pas forcément bien défini parce que la voiture des parents est assez spéciale quand on la regarde. Elle ressemble à un truc un peu bizarre, un peu futuriste, mais un petit peu rétro, rétro-futuriste. Et donc, Émilie, elle parcourt la campagne et elle s'amuse. Mais par contre, elle a un peu peur des araignées. Alors, elle va voir sa copine Suzy, mais sa copine Suzy n'est pas là. Par contre, son frère, son petit frère qui fait peur, qui lui fait peur. Oui. Il a décidé de se déguiser en clown psychopathe et elle a toujours l'impression qu'il veut la pourchasser et qu'il veut lui faire peur. Donc elle est en train d'essayer de s'enfuir parce que quand elle attendait Suzy dans la chambre, il est arrivé quoi, Franck, c'est le petit frère de Suzy, Franck. Mais heureusement, elle va découvrir dans la maison de poupée de Suzy, Noah, un petit personnage, un petit insecte sympathique qui va l'aider à rentrer chez elle en passant par un endroit un peu particulier, une trappe dans la maison. Et quand elle allume la lumière, devinez ce qu'il y a dans cette cave de maison. Oui, des araignées, mais plein d'araignées. Elles vont lui expliquer où se trouve la clé pour rentrer dans la maison, mais il faut apporter des petits biscuits à une vieille araignée qui vit dans cette petite boîte là-bas. Bon, vous l'avez compris, c'est un univers tout à fait sympathique proposé aux enfants avec une très belle couverture qui nous propose de suivre les aventures d'Émilie Cado. Ça donne dès la couverture le dynamisme, l'énergie qu'on va retrouver au fil de ces pages. Émilie Cado et le secret des araignées pour les enfants qui savent lire et qui ont envie d'avoir quelques frayeurs à la lecture de cet album des éditions de La Gouttière.
C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière.
Back on.
Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums chroniqués sur la page Facebook d'X-Bulle.
X-Bulle spécial, c'est terminé pour ce soir. Voilà, le 23 décembre ou le 30 décembre, on a le même programme dans X-Bulle. Un programme réjouissant puisque ce sont des bouquins, de beaux livres à lire, à découvrir, à acheter, à emprunter. Voilà, donc 23 décembre, 30 décembre, même programme. Mais par contre, dès le début du mois de janvier, on va se retrouver en direct avec David, avec Sophia, pour de nouvelles aventures en musique, en bande dessinée et en couleurs. Vous l'avez compris, on vous souhaite une belle fin d'année, de belles fêtes de fin d'année. Passez un bon moment à lire ces bandes dessinées qu'on vous a conseillées avec David aujourd'hui. Et puis surtout, même en cette fin d'année, soyez sages et faites de beaux bébés.